Bienvenue. Bienvenue, sens-toi bienvenue dans ce lieu, ce moment, quel que soit ton chemin de vie, quelle que soit ta réalité, facile ou difficile, ou les deux. En venant ici, tu as dit oui à ce moment ensemble et laissé de côté toutes les autres opportunités qui s'offraient à toi à l'utilisation de ce temps, de ce bien le plus précieux qu'est le temps. Tu as choisi dans ton parcours de vie de vivre ce moment ensemble. Notre chemin de vie, notre réalité de chaque jour, se module dans l'espace du temps avec différents moments. Moments positifs, moments plus difficiles, moments faciles et moments chaotiques. Notre parcours de vie, notre réalité quotidienne a cependant des assurances, un ancrage dans la Bible, parole de Dieu, de notre relation à lui aussi, pour assurer chaque pas de notre quotidien, être avec nous dans tous les moments, quelle que soit leur saveur. Nous allons donc passer un temps ensemble qui ne reviendra jamais. Il existera une seule fois dans votre vie, dans notre vie à tous, avec des moments de louange, de prière, de communion, de partage de la parole, moments qui, nous le souhaitons, nous ancrent plus encore en lui, en sa personne, en son message, en sa divine réalité. Alors, quel que soit l'état de ton chemin, l'état de ta relation à lui, sois bienvenu, ici et maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons chanter.
De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclats, la nuit essaie de fuir. Au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Thank you. Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand.
Il reviendra victorieux pour nous ouvrir les cieux. Et en attendant, une des formes que Dieu nous a données pour faire le lien entre une réalité spirituelle et un ressenti physique est le pain et le vin. Le pain pour la réalité du corps de Jésus-Christ brisé sur la croix. Le vin pour la réalité du pardon de nos fautes lavées par son sang. Réalité spirituelle qui est offerte à quiconque qui l'accepte. Alors nous lisons dans 1 Corinthiens 11, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Nous allons le vivre ensemble. Au centre des plateaux, il y a des gobelets de couleur qui sont sans alcool. Et pour ceux qui souhaitent communier avec la coupe, faites-nous signe.
Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. Merci Anne. Alors ce matin, je vais vous parler de quelque chose dont je ne suis pas spécialiste. Quelque chose que je ne connais vraiment pas bien. Et là, vous vous dites, bravo la stagiaire, ça commence bien. En fait, j'aimerais vous parler d'alpinisme. Et comme c'est vraiment pas mon truc et que j'en ai jamais fait, je me suis dit que c'était l'image parfaite pour vous parler du livre de l'Ancien Testament dont il sera question ce matin. Il s'agit du livre d'Ésaïe. Alors, le livre d'Ésaïe, c'est long et les sujets abordés y sont difficiles, en particulier dans les 39 premiers chapitres. Cela vaut bien, à mon avis, l'ascension de la face nord de l'Aiger. Pour ce matin, je vous ai prévu un dessin, s'il peut être projeté, super, merci, qui nous accompagnera pour nous parler de, justement de cette ascension, mais surtout d'un temps où on se met à l'abri, dans un refuge, parce que c'est de ça dont il sera question dans mon message. Quand je faisais mes études de théologie, le professeur qui nous avait enseigné sur ce livre nous avait demandé au préalable de lire le livre d'une traite, c'est-à-dire 66 chapitres. Armé d'un thermos de thé, d'ailleurs j'ai aussi du thé là pour ce matin, et d'une couverture que je n'ai pas, je m'étais exécutée. Et à l'époque, cela m'avait pris environ 6 heures de lecture. Alors, surprise, j'espère que vous avez pensé à prendre votre pique-nique, parce que ça va être long. Non, je rigole, mais ça pourrait être une expérience intéressante de lire un livre d'un coup comme ça. Plus sérieusement, Ésaïe est un livre qui est composé de 3 parties. La première partie va des chapitres 1 à 39 et parle des raisons pour lesquelles Israël sera emmené entièrement captive en exil. La deuxième partie, chapitres 40 à 55, se concentre spécifiquement sur l'intervention de Dieu auprès de son peuple exilé à Babylone. Et la dernière partie, chapitres 56 à 66, parle de la reconstruction de la Jérusalem détruite. Ce matin, on va un tout petit peu parler de cette ascension des 39 chapitres, enfin, de la première partie, mais surtout, on va s'arrêter dans ces textes refuge, ce refuge qu'est la deuxième partie d'Ésaïe. Car Ésaïe 40 à 55 fait partie de ces textes refuges, ceux dans lesquels on court quand on n'est plus sûr de comprendre le monde, quand on n'est plus sûr que lui nous comprend, quand on ne sait plus qui est Dieu, s'il agit, s'il est fiable et même s'il existe. Les textes refuges sont des trésors à chérir dans notre foi, surtout quand elle est mise à rude épreuve. Nous allons visiter quelques textes de ce chef-d'œuvre de la littérature biblique. Et j'espère sincèrement que vous trouverez dans ces textes votre refuge à vous quand le chemin devient trop abrupt, quand la pente devient glissante et que vous avez l'impression de tomber dans le vide. Mais avant ça, parlons un peu de ce début du livre d'Ésaïe. À cette époque, le peuple de Dieu est déjà divisé en 2 royaumes depuis environ 2 siècles. Il y a le royaume du nord, appelé Israël ou la Samarie, et le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Ésaïe est un prophète du royaume de Juda au 8e siècle avant notre ère. En l'an 722, une immense tragédie va anéantir le royaume du nord. L'Assyrie, la grande puissance armée de l'époque, va envahir le royaume et déporter tous ses habitants. C'est le genre de déportation où les familles sont séparées. Le peuple perd sa terre, ses racines, sa culture, sa religion pour être emmené captif, loin de chez lui et être assimilé à un autre peuple. C'est ce qu'il s'est passé pour les 10 tribus du royaume du Nord, celles qu'on appelle les 10 tribus perdues d'Israël. Perdues car il n'en reste aucune trace. Elles ont été assimilées, englouties et ont totalement disparu. Et c'est en regardant cette tragédie se produire qu'Ésaïe entre dans l'histoire. Il doit avertir le royaume de Juda qu'il n'est pas à l'abri de la déportation et que Dieu a en fait émis un jugement contre lui. Il sera bel et bien exilé lui aussi. Lui aussi sera envahi, détruit et emmené captif. Alors je vous l'ai dit, ces 39 premiers chapitres sont terribles. Et c'est vrai qu'il faut s'armer de courage pour les affronter. Mais une des clés de lecture de ces textes difficiles de l'Ancien Testament, c'est de se rappeler que la relation entre Dieu et son peuple était basée sur un contrat, la loi ou l'ancienne alliance, comme on dit. Ce contrat avait plusieurs règles, des commandements à suivre. Cela couvrait évidemment le culte rendu au Dieu unique, mais cela incluait aussi d'autres domaines, comme la religion dans son ensemble, le boire, le manger, le rapport aux nations païennes, et aussi la justice accordée aux démunis et aux plus faibles. En respectant le contrat, le peuple était assuré des bénédictions. Dans le cas contraire, c'était la calamité et effectivement, le contrat n'avait pas été respecté. Ce qui était le plus reproché au royaume de Juda, c'est d'avoir choisi de s'allier avec des nations souveraines païennes, d'avoir inclus le culte aux idoles au sein de sa culture pour mieux se faire accepter par l'Égypte, en l'occurrence dans Ésaïe, et bénéficier de la protection de cette grande nation puissante. Le problème, c'est qu'en concluant ce type d'alliance, le peuple entrait dans des compromis où il renonçait à son intégrité, à sa raison même d'être appelé le peuple de Dieu. Jérusalem a laissé son peuple revivre une sorte d'esclavage en permettant que les plus faibles soient exploités au profit des plus riches. Le Dieu d'Israël lui-même a été mis à l'écart pour des divinités. Et cette première partie d'Ésaïe met clairement en évidence que ces divinités n'étaient que morceaux de bois, d'argile et de métal. En fait, les humains ont été déshumanisés et la création, un morceau de bois par exemple, a été divinisé. Et c'est sur cela que Dieu pose son jugement. La sentence tombe, son peuple sera déporté et détruit. Cela n'arrivera pas sous la menace de la Syrie, comme pour le royaume du Nord, mais bien par un petit royaume en Orient qui peu à peu monte en puissance, Babylone. Babylone viendra déporter les habitants de Jérusalem et de Juda à partir de l'an 597. Mais tout au long de ces 39 chapitres, on comprend que l'alliance a été conclue par deux parties. Alors oui, il y a un peuple qui a échoué et qui risque de disparaître, mais il y a surtout le Dieu d'Israël qui tient coûte que coûte à ce que son plan de salut pour le monde puisse arriver à terme. Israël ne sera donc pas entièrement détruit. Il en restera un bout, et de ce petit rien, Dieu fera des choses grandioses. Et toute la première partie d'Ésaïe est jalonnée par quelques paroles d'espérance, et c'est un exercice de les trouver dans une lecture aussi désastreuse. C'est au cœur de la déportation que le plan de salut et de secours va se mettre en œuvre. Et c'est là qu'on va pouvoir accéder à ce refuge de montagne, respirer un grand coup et tenter de comprendre ce qu'il se passe au cœur du chaos. On dit parfois que le livre d'Ésaïe, c'est le cinquième évangile de la Bible. En effet, le thème de la bonne nouvelle, évangile tiré du grec, est central dans tout le livre. D'ailleurs, les quatre évangiles du Nouveau Testament sont fortement enracinés dans le livre d'Ésaïe. Mais qu'est-ce que l'évangile ? Qu'est-ce que la bonne nouvelle pour Ésaïe ? Je vous l'ai dit, Ésaïe parle à un peuple qui a tout perdu par sa faute. La bonne nouvelle, c'est que Dieu accorde son pardon à ce peuple et va le restaurer dans son identité si spécifique. Et ce qui fait qu'Israël est ce qu'il est, c'est qu'au milieu de lui, c'est Dieu en personne qui habite. Le problème, c'est qu'au moment de la déportation, Dieu se retire physiquement du temple de Jérusalem. On lit cet épisode dans Ézéchiel. Donc il n'est plus physiquement parmi eux. Un autre point, c'est sa terre, la terre promise en héritage. En étant déporté, le peuple n'a plus ce territoire. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que le roi d'Israël soit un descendant de David, un descendant direct de ce grand roi choisi par Dieu avec qui il avait conclu une alliance éternelle. Un fils de David doit régner et il exercera la justice pour toutes les nations et toutes les nations seront bénies par lui. Or, depuis la déportation, ce sont que des étrangers qui dominent. Donc, la bonne nouvelle annoncée par Ésaïe, c'est premièrement que Dieu retourne parmi son peuple, que le peuple va retrouver sa terre et qu'il y aura bien un roi issu de David qui viendra régner et que toutes les nations seront bénies par sa grande justice. Maintenant que je vous ai esquissé les contours de la bonne nouvelle d'Ésaïe, j'aimerais vous faire savourer quelques magnifiques textes de ce livret de Ésaïe 40 à 55. Alors, je suis consciente qu'il peut être difficile de s'approprier des textes de l'Ancien Testament. On y arrive avec les psaumes parce que ce sont de magnifiques textes poétiques. Mais les textes prophétiques comme Ésaïe, c'est parfois plus compliqué. Alors oui, à l'origine, ces textes sont adressés au peuple d'Israël. Mais n'oublions pas le but ultime de Dieu, c'est que toutes les nations soient sauvées, qu'elles soient juives ou pas. Et donc, je pense que ces textes s'adressent à l'humanité. Ésaïe, dans son livre, s'adresse au peuple d'Israël, mais il va utiliser différents qualificatifs pour le nommer. Ce matin, je vous ai fait une liste de ces qualificatifs en espérant que certaines caractéristiques pourraient vous correspondre. Et si c'est le cas, alors c'est dans le mille. Ben, ça veut dire que cette bonne nouvelle et cette justice de Dieu est pour vous aussi. La bonne nouvelle et la justice est pour le captif, pour l'esclave, pour celui qui est traité comme de la vermine, pour celui qui est dans la honte, pour celui qui est rescapé, pour celui qui est fatigué et affaibli, pour celui qui est attristé et endeuillé, pour celui qui est déraciné, pour celui qui est seul et apeuré, pour celui qui est dans la vieillesse et celui qui est jeune aussi, pour l'étranger, pour celui qui s'est égaré, pour l'orphelin, pour l'épouse abandonnée, pour celle qui n'a pas pu avoir d'enfant, pour celui qui a perdu un enfant, pour celui qui est séparé de sa famille, pour celui qui est humilié, pour celui qui est ruiné, pour celui qui est dans l'obscurité, pour celui qui est loin de Dieu. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en nous plongeant dans Ésaïe 40 à 55. Comme nous sommes en période de post-fête de fin d'année, je me suis dit qu'on allait faire léger. Et je vous ai donc préparé une dégustation, une sélection de certains des plus beaux textes de ce livret. Je vais très peu les commenter, juste apporter quelques mots de compréhension sur certaines expressions ou mettre en évidence une facette de cette bonne nouvelle chez Ésaïe. Pour le reste, laissez l'Esprit de Dieu venir vous interpeller. Laissez les mots faire écho en vous. En Ésaïe 40, Dieu annonce son retour parmi son peuple. Il met fin aux jours amers. Il retourne vers lui et c'est la bonne nouvelle. Dans une deuxième partie de ce chapitre, Dieu redonne des forces à son peuple exténué. Ésaïe 40, 1 à 5. Réconfortez. Oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier. Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé. Que les montagnes et les collines soient abaissées. Que les reliefs soient changés en plaines et les hauteurs en larges vallées. La gloire du Seigneur va être dévoilée et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. Versets 27 à 31. Peuple de Jacob, pourquoi dis-tu Israël ? Pourquoi continues-tu à dire « Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. » Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu dire ? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Ésaïe 43, un texte refuge pour beaucoup d'entre vous, je crois. Dans ce texte, Dieu démontre sa protection dans les pires épreuves. Ce petit peuple d'Israël qui ne valait sans doute pas grand-chose au sortir de 70 ans d'exil, Dieu lui témoigne son amour et toute l'estime qu'il lui accorde face à ces soi-disant peuples de grande valeur. Ésaïe 43, 1 à 4. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur. Je t'ai libéré, je t'ai appelé, personnellement tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas, les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, tu es précieux à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Donc, je donne des peuples à ta place et des êtres humains en échange de toi. Ésaïe 50. Voilà à quoi ressemble la justice de Dieu. Versets 1 à 6. Vous qui courez après le salut, vous qui me cherchez, écoutez-moi, dit le Seigneur. Considérez dans quel rocher vous avez été taillé. Pensez à la carrière de pierre d'où vous avez été tiré. Considérez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a mis au monde. Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé. Mais je l'ai béni, j'ai fait de lui l'ancêtre d'un peuple nombreux. Le Seigneur réconforte Sion. Il réconforte ses ruines. De ce site déserté, il va faire un jardin d'Éden. De ce terrain aride, il va faire un paradis. Et là retentiront les cris d'une joie débordante, les chants de louanges et les airs de musique. Vous, mon peuple, écoutez-moi bien, dit le Seigneur. Vous qui m'appartenez, soyez attentifs. C'est moi qui énonce l'enseignement. Le droit que j'instaure sera la lumière des peuples. Le salut que j'apporte est proche, imminent. Ma délivrance va paraître. Je ferai régner le droit avec vigueur parmi les peuples. Les populations lointaines mettront leur espoir en moi. Elles compteront sur mon pouvoir. Regardez là-haut, vers les cieux, et puis en bas sur la terre. Les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre partira en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants tomberont comme des mouches. Mais la délivrance que j'apporte subsistera toujours. Mon salut n'aura pas de fin. Ésaïe 40 à 55 est ponctué par quatre chants que l'on appelle les chants du serviteur. Je vous ai choisi un extrait du quatrième, sans doute le plus connu. Le serviteur est celui par lequel Dieu agit pour mener à bien son plan de secours. Et comment ne pas penser à Jésus en entendant ces mots ? Ésaïe 53, 7 à 10. Il s'est laissé maltraiter et humilier sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a emmené, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels. Une fois mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, ni pratiqué la tromperie. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé par la souffrance. S'il offre sa vie en offrande à la place des autres, alors il aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Pour finir, Ésaïe 54, où Dieu renouvelle sa promesse, une alliance avec son peuple. Versets 9 à 10. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que le déluge ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde, ma tendresse. Après tous ces magnifiques textes, je ne vais pas en ajouter trop. Mes mots sont bien trop modestes. Dieu vient et il est déjà là. Et il vient nous accorder la justice et la réparation. À nous tous qui avons subi tant de pertes et d'injustices, à nous tous qui avons perdu peut-être un bout de nous-mêmes dans les épreuves les plus dures de la vie, Dieu nous promet la réparation. Et ça, c'est le sommet de notre ascension. Cela en vaut tellement la peine. Si dans ce chemin, nous avons l'impression d'avancer avec difficulté, alors n'hésitons pas à nous arrêter autant que nécessaire dans ces textes refuges, que ce soit ceux d'Ésaïe, des psaumes ou d'autres, et d'entrer en dialogue avec Dieu. Prenons le temps aussi de nous rappeler que même si nous croyons souvent être isolés dans la souffrance, c'est très souvent à ce moment qu'on découvre la fiabilité de Dieu. Le Christ nous a ouvert la voie, suivons ses traces. Osons prendre appui sur les points d'ancrage qu'il nous a laissés. C'est vrai que le sommet paraît encore loin, mais il nous en a fait la promesse. En nous accrochant de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée, de toute notre force à Dieu. Alors, on va y arriver. Amen. Je vous laisse un moment pour réfléchir et prier si ça vous dit.
Créant lui, réfugié en sa parole, nous pouvons être actifs dans la société où nous sommes et être actifs ici dans notre communauté au travers de l'offrande. Et pendant l'offrande, les annonces sont passées pour voir comment ces offrandes sont mises en œuvre. Je ne sais pas, c'est Elisabeth qui fait les annonces.
Bonjour. Alors, les annonces, il n'y en a pas beaucoup de projetées, Christophe. Alors, les mémos, donc c'est toutes les informations concernant notre Église, sont disponibles. Alors, si vous êtes inscrit, vous les recevez par mail ou par courrier. Autrement, ils sont sur le site de l'Église. Et si vous ne... il y en a... des papiers, version papier disponible sur le présentoir à la sortie. Et si vous voulez recevoir les informations, vous pouvez vous inscrire sur le présentoir. Il y a des feuilles et vous pouvez les remplir, les donner au pasteur ou à l'un de nous pour si vous voulez recevoir ces informations. Ensuite. Alors, dimanche passé, il y avait une collection d'objets trouvés qui étaient dans le vestiaire, au dehors. Cette fois, Claire ne les a pas remis, mais il y a toujours pratiquement autant d'objets trouvés. Donc, si vous vous dites que, si vous cherchez quelque chose depuis longtemps et que vous ne saviez pas où vous l'avez oublié, il y a dans des coffres au fond, c'est marqué « objets trouvés » et ces objets trouvés se trouvent là-bas. Alors, allez regarder si vous les trouvez. Après un certain temps, si les objets ne sont pas récupérés, ils sont donnés à différentes œuvres. Voilà. Alors, j'ai des salutations pour chacun d'entre vous de la part de Claude Bécher. Il va aussi bien que possible, il est en convalescence et il vous salue tous, il a dit. Un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'auraient pas remarqué, à la sortie du culte, chaque dimanche, il y a la possibilité de boire un café dans le, juste à côté, là. Alors, si vous voulez profiter encore d'un moment de convivialité, de boire un café, c'est possible. Encore une information. Vous savez, vous avez certainement tous remarqué que nos pasteurs sont très, très sollicités. C'est bon signe. Et ils répondent très volontiers aux sollicitations. Mais comme chacun de nous, ils ont quand même besoin d'avoir de temps en temps un jour de congé pour pouvoir récupérer et répondre aux sollicitations légitimes de leur famille. Alors, le lundi, c'est leur jour de congé. Le dimanche, mais ils participent aux activités. Mais le lundi, c'est leur jour de congé. Alors, à moins d'un événement vraiment urgent, merci de les laisser se reposer ce jour-là. Et ils ont tout le reste de la semaine. Voilà. Encore une information. Cette semaine, c'est la semaine universelle de prière à Genève. Donc, du 13 au 17 janvier, avec des réunions, des prières donc dans différents endroits. À la sortie, sur le présentoir, il y a des brochures avec des flyers comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez savoir où ça se passe, servez-vous à la sortie. Voilà, je crois que c'est tout.
Voilà, je crois qu'il avait déjà été annoncé. Donc, Tinatan, qui est né le 17 décembre. Je voulais juste vous remercier aussi pour les prières, pour aussi les pensées. Et il y aura un petit faire-part qui sera à la sortie aussi, donc, pour vous. Et puis merci encore pour vos prières, vos pensées. Puis, voilà, Tinatan.
Nous voulons prier pour les dons. Père Céleste, merci pour le don de la vie que tu as donné avec Nathan, au parent, que tu l'accompagnes dans sa vie, dans démarrer cette vie sur cette terre. Merci pour les dons de chacun et qu'ils puissent fructifier, être utiles à l'Église pour être un témoin de la société où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Il me restait un petit dernier texte de ce livret, donc dans Ésaïe 55. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie poussera la myrrhe, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Que Dieu vous accompagne dans cette semaine. Bon dimanche. Au revoir.